Julian Jackson, vous êtes professeur d'histoire française à l'université Queen Mary de Londres et on vous doit une biographie du général de Gaulle, une certaine idée de la France. C'est publié aux éditions du Seuil par rapport à ce que vient de dire Frédéric Saïd sur le poids du général de Gaulle dans la vie politique française. Votre regard d'anglais sur cette situation ?
Mais je suis tout à fait d'accord avec ce billet politique, à 100% d'accord. Et tout le monde se réclame de De Gaulle, ça ne veut plus rien dire en fait. Déjà, De Gaulle lui-même n'aimait pas beaucoup parler du gaullisme. Il le mettait souvent entre guillemets. Mm-hmm. Et même en fait, les avatars, si vous voulez, des partis gaullistes pendant sa vie, il y avait le RPF, il y avait UNR, il y avait l'UDR, et depuis sa mort, il y a le RPR, et puis l'UMP, et puis les Républicains, ça ne veut rien dire. Et tout le monde se réclame du personnage exactement comme il vient de dire. Et on peut prendre par exemple maintenant les souverainistes, les soi-disant souverainistes sont tous disent ah oui, ils sont dans la lignée de De Gaulle. Oui, dans un sens, on sait bien que De Gaulle n'était pas fanatique du supranationalisme, etc. L'Europe, etc. Mais on oublie aussi que quand il revient au pouvoir en 58, la première chose qu'il fait, c'est un plan très important de libération des échanges. Par exemple, son grand conseiller, c'est le grand économiste Jacques Rueff. Et je ne dis pas qu'il est libéral non plus, je dis simplement que c'est absurde de faire parler De Gaulle de la tombe. Il est un homme politique qui agit dans son contexte, dans sa période, et je crois que si on se réclame de De Gaulle, ce ne serait pas des politiques, parce que les politiques changent selon les circonstances, et circonstances était un mot clé pour De Gaulle, l'adaptabilité aux circonstances. Mais c'est une, il avait une façon d'agir, quand on a dit tout à l'heure, d'interpréter le monde, etc. Mais le monde change. Et c'est une absurdité liée à une certaine, je suis tout à fait d'accord aussi, nostalgie d'une période plus glorieuse peut-être en fait, la période des années 60 où donc quand on se réclame de De Gaulle, on voit la France en expansion, on voit la France de Jean-Paul Sartre, de Brigitte Bardot, Caravelle, donc on voit une France qui comptait plus dans le monde. Donc dans cette nostalgie pour De Gaulle, je crois que c'est mêlé à beaucoup d'autres choses.
Oui, alors vous expliquez là aussi, Julian Jackson, à quel point son analyse des forces en présence a été pertinente pour son retour au pouvoir en 58. Il revenait d'ailleurs d'assez loin, puisque en 1955, si j'en crois les chiffres que vous publiez, eh bien la popularité du général de Gaulle était de 1%. Il y avait 1% des Français qui souhaitaient qu'il joue un rôle politique important à l'avenir. D'ailleurs, en cela, c'est aussi un point commun avec Churchill, qui avant 39 n'était pas si populaire cela.
Oui. Non, il a profité de la situation de crise en 58. C'est bien possible que sans cette crise, il ne serait pas revenu au pouvoir. Mais avec une maîtrise incroyable, il a profité de ce qu'on pourrait appeler l'espèce de coup d'État en Alger en 13 mai 58. Et donc, il a joué l'armée contre le Parlement et le Parlement contre l'armée. Et il est revenu au pouvoir. Donc oui, c'était à ce moment-là un grand tacticien politique, c'est pas toujours le cas, mais à ce moment-là, il a bien joué. Donc oui, mais vous avez tout à fait raison, c'était pas joué en avance.
Et non, c'était pas du tout joué. Et puis l'autre motif de surprise, c'est cet homme qui est militaire, qui vient d'un milieu intellectuel maurrassien, oui, très proche donc finalement des idées qui prévalaient à Vichy, d'autant qu'il faut le rappeler, vous le rappelez longuement, Julian Jackson, il était dans une certaine proximité avec le maréchal Pétain, dont il a été la plume, avec qui il a écrit un livre, ou il a écrit un livre pour Pétain, qu'il a publié.
C'est lui qui a écrit le livre, en fait. Oui, c'est lui. Non, mais il ne faut pas exagérer cet aspect. Donc, deux choses. Vous avez parlé d'une une formation maurassienne ou l'influence maurassienne, il faut pas exagérer. De Gaulle était un nationaliste, si vous voulez, de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, c'est bien entendu, mais Maurras, donc il baignait plutôt dans la pensée de personnages comme Maurice Barrès ou Charles Péguy, et donc c'était un nationalisme qui était très ouvert, si vous voulez, dans le cadre de Gaulle. Et Maurras, c'était quelqu'un qui voulait exclure les Juifs, les métèques, etc. Ça, c'était pas du tout de Gaulle. La chose que de Gaulle a pris de Maurras, une chose, à mon sens, c'est l'importance de l'État, un État fort pour Maurras, ça devait être une monarchie, et de Gaulle, qui n'était pas nostalgique d'une passé qui était revenue, n'était plus monarchiste. Mais il voit l'importance de l'État, et c'est ça qu'il a pris de Maurras. Quant à Pétain, oui, il a été le plume de Pétain pendant les années 20, il était dans son cabinet, etc. Mais il a dit lui-même, souvent dit lui-même, que le maréchal Pétain est mort en 1925. C'est-à-dire, il ne prenait pas au sérieux sur le plan politique, en fait. Mais c'était, si vous voulez, un personnage qui a appuyé sa carrière au début et profitait parce qu'il voulait avancer. Mais entre le pétanisme, qui est quelque chose qui n'existe pas vraiment, et le gaullisme, il n'y a rien, en fait. Il y a un abîme, en fait.
Oui, mais c'est cet homme-là qui va comprendre que la France doit quitter l'Algérie.
Oui, non, tout à fait, il comprend. Mais donc, on revient au retour de pouvoir en 58. Il comprend, je crois que quand il revient au pouvoir, il ne sait pas exactement ce qu'il veut faire de l'Algérie, mais il sait une chose, que l'Algérie, il n'est pas un partisan de l'Algérie française dans la version la plus extrême, l'intégration de l'Algérie. Il n'est pas un partisan de l'indépendance de l'Algérie en 58. Il cherche peut-être une troisième voie, il ne sait pas exactement, il cherche peut-être une association, etc. Mais j'insiste, avec De Gaulle, et là, c'est la même raison pour laquelle je trouve absurde cette idée que les gens qui se réclament de ce que De Gaulle ferait aujourd'hui, il prend toujours compte des circonstances, des réalités. C'est un mot clé pour De Gaulle. Une politique qui ne prend pas en compte les réalités, c'est pas c'est une politique qui ne compte pas. Mm-hmm. Et donc, il a compris les réalités de la situation et il a pris ses décisions. Mais toujours, il est pragmatique dans le bon sens du mot, c'est-à-dire circonstance, pas opportuniste, mais pragmatique.
Et alors, justement, le fait que cet homme, comme on l'a dit tout à l'heure, Julian Jackson, cet homme cyclotymique qui n'est pas véritablement un chef traditionnel, puisque il n'a pas véritablement envie de séduire les gens un par un, il ne se comporte pas comme un politicien. Cet homme va revenir au pouvoir en 58 et va y rester longtemps, probablement, peut-on dire, trop longtemps.
Peut-être. Pour cette question de il n'est pas séduit. On a donc, c'est vrai qu'il n'était pas à l'aise dans la séduction d'un personnage individuel, mais il aimait, il avait la capacité, si vous voulez, de séduire les foules. C'est-à-dire, c'était un grand, pendant la guerre, c'était le premier, je trouve que c'était le premier homme politique dans le monde qui a été créé pendant la guerre, par la radio. Et dans la Cinquième République, il jouait à la télévision, c'était un grand et ses conférences de presse également, c'était un grand communicateur qui avait la capacité de d'attraction, mais pas, donc c'était pas sur le plan personnel. Oui, il y a cette timidité, mais dans ses rapports avec les Français en masse, en fait, il était il avait une capacité de persuasion qui était remarquable. Oui, il est peut-être resté trop longtemps, en fait, mais il aurait pu peut-être démissionner, ou pas se représenter à l'élection en 65. mais c'est, il avait dans sa tête autre chose à faire, etc. Et puis, il y a 68. Mais ce qui est, quand on voit, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis actuellement, je veux pas le comparer avec ce personnage. Mais quand même, il savait quitter le pouvoir. Il l'a fait deux fois. Et en 69, il a quitté le pouvoir avec une certaine élégance, je trouve.
Julian Jackson, votre biographie du général de Gaulle, Une certaine idée de la France, est publiée aux éditions du Seuil. Nous sommes également en compagnie de ma camarade Aurélie Luneau. Bonjour.
Bonjour Guillaume.
Aurélie, on vous doit une biographie de Maurice Genevoix avec Jacques Tassin, paru chez Flammarion. Et puis aussi d'ailleurs un livre sur l'appel du 18 juin, toujours aux éditions Flammarion. Et pour évoquer l'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix, on peut commencer par dire, puisque Julian Jackson nous entend, que Genevoix était un écrivain fort prisé par Charles de Gaulle.
Exactement, les deux hommes se connaissaient. De Gaulle avait lu Genevoix et appréciait les œuvres de Genevoix qui lui faisaient du bien. Alors c'est intéressant parce que vous parliez du caractère de ce De Gaulle qui était surnommé le connétable avant la Seconde Guerre mondiale à Saint-Cyr ou durant son parcours d'études militaires. Eh bien, il appréciait Maurice Genevoix, l'humaniste. Et Maurice Genevoix était vraiment tout l'inverse, c'est-à-dire que c'était un petit bonhomme tout sous sourire, très avenant, truculent, et c'est vrai que ces deux caractères opposés s'aimaient beaucoup. Et ce qu'il faut souligner, c'est que quand De Gaulle a quitté le pouvoir, quand il démissionne le 27 avril 1969, eh bien, il y a cette parution donc de Tendre bestiaire, écrit par Maurice Genevoix peu avant, et il va lire justement après sa démission ce livre-là, et il va écrire juste quelques lignes sur un papier, une lettre à Maurice Genevoix. Il écrit ceci: mon cher maître, parce que Maurice Genevoix, ancien secrétaire perpétuel de l'Académie française, donc mon cher maître, qui donc jamais a senti mieux que vous tout ce qu'il y a de beauté et de bonté chez les bêtes, au milieu de toutes leurs angoisses et douleurs, merci, merci de votre tendre bestiaire qui m'est venue juste au moment où j'éprouvais la tristesse qui vient des hommes. Et c'est vrai que après sa mort, son épouse dira que il a pu aussi être emporté par la tristesse, même si De Gaulle est mort d'une rupture d'anévrisme. Il a beaucoup souffert de cette sortie du pouvoir.
On voit en tout cas Julian Jackson, la proximité une fois de plus de Gaulle avec la littérature, avec les écrivains.
Oui, non, c'est très important. Il y a dans ses lettres, dans ses carnets, il y a énormément de lettres aux écrivains où vraiment il pesait ses mots. C'était, je reviens sur ce point, c'était un intellectuel, c'était un lecteur. Il lisait au moins un roman par an, par semaine, je veux dire, pendant la période de la Ve République. C'était un grand lecteur, c'était un grand écrivain, et il avait un grand respect pour les littéraires. Et je crois que dans le cas de Genevoix aussi, il y a le cas de quelqu'un qui avait combattu pendant la Première Guerre mondiale. C'est très important pour lui.
Et oui, c'est tout cela que vous rappelez dans votre biographie de Charles de Gaulle, Julian Jackson. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Aurélie Luneau, je vous propose d'entendre un extrait du feuilleton actuellement sur France Culture, Maurice Genevoix, un écrivain humaniste, avant que vous nous présentiez cet écrivain et que vous nous expliquiez pourquoi il entre au Panthéon aujourd'hui.
Mardi, 25 août 1914, Chalon-sur-Marne. L'ordre de départ est tombé comme un coup de tonnerre. Course précipitée par la ville, avec la crainte et la certitude d'oublier quelque chose. Je trouve à peine le temps de prévenir les miens. Dernière revue dans la cour du quartier. J'étais à la cantine lorsque l'ordre m'a surpris. J'ai bondi, traversé la cour, et me voici, raide comme un piquet, devant deux files de capotes bleues et de pantalons rouges. Il était temps. Le général arrive déjà à la droite de ma section. Au port du sabre, ma main droite serrant la poignée de l'arme, ma main gauche pétrissant à travers un papier gras ma récente emplette, deux sous de pain et une charcuterie sans nom qui sue. Le général est devant moi, jeune, bien pris dans la tunique, visage énergique et fin. « Lieutenant, je vous souhaite bonne chance. »« Merci, mon général. »« Je vous tends la main, lieutenant. » »« Et parbleu, je le vois bien. Je sens mon sandwich qui s'écrase. » « Seriez-vous ému, lieutenant ?» Un tour de passe-passe, mon sabre a filé dans ma main gauche. Une ferme secousse à la main tendue vers moi, et je réponds bien haut, bien clair, en cherchant ses yeux. « Non, mon général. J'ai menti, j'étais ému. J'aurais eu honte de ne pas l'être, tant d'impressions, de réflexions ébauchées qui me secouaient tout entier. Mais j'ai bien compris le « seriez-vous ému » du général. J'ai répondu « non ». J'ai dit vrai.
Un extrait des Mémoires de guerre de Maurice Genevoix avec ce troisième épisode diffusé ce soir à 19h sur France Culture. Aurélie Luneau, ceux de 14 dont il s'était fait le témoin, explique que Maurice Genevoix entre aujourd'hui au Panthéon. Quelle avait été la guerre de Maurice Genevoix ?
Eh bien, justement, on l'entend en ce mois d'août 1914. Il prend le commandement du 106e régiment d'infanterie à Chalon-sur-Marne. Et puis ensuite, il va être dans le secteur de Somène, Rambert-Couropeau, Vaumary, donc pas très loin de Verdun. Et il va vivre ces moments de guerre égal à lui-même et à hauteur d'homme. Ces hommes dont il découvre le patriotisme et puis la volonté de défendre la nation. Et aujourd'hui, entre au Panthéon, certes, Maurice Genevoix, alors l'écrivain, mais l'écrivain à qui on doit plus de 50 livres, une œuvre et une traversée du XXe siècle, mais c'est surtout ce Maurice Genevoix, auteur de Ceux de 14, ce livre qui raconte son vécu dans les tranchées entre août 1914 et avril 1915, puisqu'il sera blessé à ce moment-là, évacué, puis hospitalisé et invalide. Mais c'est une façon de rendre hommage, honneur à l'écrivain, combattant, témoin, et puis à tous ceux qui étaient avec lui, au-delà de ceux du 106e régiment d'infanterie, à qui il dédicace son livre, mais c'est vraiment tous ceux qui sont tombés sur ce terrain de la Grande Guerre. Et c'est intéressant parce que, justement, le président Macron aurait dû panthéoniser Maurice Genevoix l'an dernier. Finalement, ça a été reporté d'une année pour adosser cette panthéonisation à l'anniversaire de l'installation de la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. C'était le 11 novembre 1920. Donc, on sent vraiment que c'est saluer là la fraternité des frères d'armes, et Maurice Genevoix entre au Panthéon en tant que porte-parole lui-même dans ce roman national, le porte-parole de tous ces hommes.
Alors, il y a quelque chose d'étonnant avec Genevoix, Aurélie Luneau, c'est le fait que celui-ci ait été si connu puis si oublié. Comment expliquer ce paradoxe ?
Ah mais tout à fait, on peut parler d'un inconnu qui entre au Panthéon. Pour beaucoup, aujourd'hui, il va y avoir la découverte de cet homme-là.
De temps en temps, on en a un peu étudié à l'école.
Oui, voilà. Enfin, tout dépend en quelle génération. Moi, j'ai eu l'occasion de l'étudier, mais aujourd'hui, qui étudie Maurice Genevoix, des professeurs de français et d'histoire-géo, justement, avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter, me disaient c'est formidable, on va pouvoir réintégrer ou faire travailler nos élèves sur les textes de Maurice Genevoix, qui ne sont pas non plus si faciles, dans le sens où c'est une très belle écriture, mais c'est aussi l'écriture d'un homme qui a porté haut le français, la défense de la culture française, la francophonie, et on retrouve dans ces textes des mots qu'on a oubliés aussi, qui sont devenus presque inconnus dans notre langue française usitée aujourd'hui, et donc c'est vraiment cet homme-là. Alors, effectivement, il était très connu, mais au-delà de ses livres, il était invité sur les plateaux télé, à la radio, c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui un bon client, même jusque dans les derniers moments, toujours vif, humaniste, plein d'humour, et de finesse.
Et lorsque l'on voit donc cet homme aujourd'hui si méconnu, pour redécouvrir son œuvre, Aurélie Luneau, qu'est-ce que vous pouvez suggérer à nos auditeurs ?
Je Je crois qu'on peut s'emparer d'abord de La dernière Harde. C'est un très très beau livre qui nous plonge dans le récit d'un jeune cerf qui d'ailleurs perd sa mère, qui est tué par des chasseurs. Ce n'est pas rien parce que non seulement Maurice Genevoix, durant toute sa vie d'écrivain, va avoir comme fil conducteur, comme colonne vertébrale, ses camarades tombés pour justement ne pas les oublier et porter leur mémoire, mais il a aussi, à l'âge de 12 ans, perdu sa mère. Et donc, dans ce livre-là, on sent qu'il y a à la fois son vécu dans les tranchées et puis son enfance. C'est toujours très, très présent. Également, l'Orléanais, la nature, l'environnement. C'est un écrivain qu'on a dit d'abord écrivain de guerre et ensuite écrivain régionaliste. Mmh. Régionaliste, ce n'était pas péjoratif à l'époque, hein, mais il nous emmène dans des univers différents. Donc, je dirais La dernière Harde. Il y a aussi un très, très beau livre qui s'appelle Rémi Desroches. Un autre qui s'appelle Roux. Enfin, il y en a beaucoup, conseillé d'ailleurs sur le site de France Culture, je crois, à l'issue de la fiction des textes qui sont lus tous les soirs en ce moment sur France Culture, de 20h30 à 21h. Mais voilà, beaucoup, beaucoup de belles entrées.
Oui, alors vous dites écrivain régionaliste, sa région à lui, c'était notamment la Loire, et il y a beaucoup de descriptions de la vie campagnarde des bords de Loire, la nature, les chasses en Sologne.
C'est vrai, c'est sa particularité, c'est que de la même façon qu'il a été cet écrivain des tranchées, de la guerre, au plus près des hommes, dans un récit très réaliste, hein, c'est pour ça qu'il est salué aussi aujourd'hui, eh bien il a été cet écrivain de la nature, de la forêt, la Sologne, l'Orléanais. Il vivait avec ses parents à Châteauneuf-sur-Loire, il a acheté une maison donc au Vernel, à Saint-Denis-de-l'Hôtel. Et il est toujours resté très attaché, même s'il a beaucoup voyagé. C'est un homme qui a voyagé dans de très nombreux pays.
Oui, parce qu'il y a le Canada, par exemple.
Exactement. Et au Canada, il y va dès 1939. Et quand il se rend au Canada, il est en symbiose avec ces grands espaces. Et ce qui est également très intéressant, c'est que cet homme-là, ce n'est pas un homme non plus campé dans son siècle. C'est un homme qui, très tôt, a été aussi un visionnaire. Et un visionnaire pour l'environnement. Et donc, dès 1939, il se rend compte que la main de l'homme va faire du mal sur l'environnement. Et ce sont les enjeux que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, il dénonce les monocultures à l'américaine, il dénonce l'éradication de certaines espèces animales, il s'inquiète de l'ultra-urbanisation, de la bétonisation. Mais dans les années 70, il va s'engager aussi contre une usine qui doit s'implanter à côté de chez lui, parce qu'on ne saura pas à l'époque quoi faire des déchets, et donc il s'en inquiète pour l'environnement.
Oui,
c'est vraiment cet homme qui a été
camarade
aussi un avant-gardiste.
Hervé Gardette va revenir là-dessus. Ce que l'on retient malgré tout en premier lieu, c'est cette peinture de la guerre de 14-18, et c'est la raison pour laquelle, comme vous l'avez dit, il entre aujourd'hui au Panthéon. C'est un homme qui avait été blessé dans sa chair par la guerre de 14-18, et toute son œuvre est marquée de ce sceau.
Tout à fait, et c'est vraiment cet homme, Maurice Genevoix, et ceux de 14 qui tout à l'heure entreront au Panthéon, une cérémonie d'une heure qui est prévue avec le président Macron.
Alors, donc, perturbé par la crise sanitaire, comme
exactement.
On l'a dit.
Mais exactement, et d'où la sobriété. Il y aura juste quelques membres de la famille, et puis ce cercueil qui sera porté par des militaires pour symboliser ses camarades de guerre. Et puis on imagine, hein, parce qu'on n'a pas encore, on n'est pas dans les secrets du discours qui sera donné, mais on imagine que pour Maurice Genevoix qui entre au Panthéon, et puis pour le président Macron, il y a vraiment l'humanisme aussi. C'est vrai que Maurice Genevoix, aujourd'hui, c'est un homme qui nous dit beaucoup sur les relations, les rapports aux autres, au-delà donc de l'environnement que j'évoquais, au-delà de l'écrivain. C'est un homme qui aussi nous fait du bien de par le rappel de ce qu'on devrait aussi entretenir de relations entre les hommes.
Mais oui, c'est un écrivain qui parlait et qui parle à beaucoup de monde. Il parlait beaucoup, par exemple, à l'économiste Bernard Maris, qui est mort lors de l'attentat contre Charlie Hebdo. Maris aimait énormément Genevoix,